Oh, die Rede schon. La joie de Dieu. Halleluja.
Und die Rede.
Lève mes mains en victoire. Célébrant Jésus, roi de gloire, je m'avancerai vers son trône, jetant à ses pieds ma couronne.
Je lève mes mains en victoire.
Thank you. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Loué soit le Seigneur Jésus. Il est fidèle. Il est le Dieu fidèle qui nous a appelés à la communion de son Fils. Quelle richesse cette communion avec Dieu. Quel repos, quelle paix. Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Quelle consolation aussi. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est bien vrai ce que la Bible dit. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Que son nom soit béni. Gloire au Seigneur. Le message que je voudrais vous donner ce matin, nous allons le trouver dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Ces paroles-là sont extrêmement, vous allez voir, importantes. Et dans ces paroles, nous voyons que Dieu n'accepte pas de demi-mesure. C'est un Dieu qui nous veut tout entier à lui. Tout entier. Pourquoi ? Parce qu'il s'est donné tout entier pour chacun d'entre nous. Il s'est donné entièrement pour nous. Et en retour, il demande à ce que on se donne aussi à lui entièrement. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, bien souvent, l'Éternel disait au peuple d'Israël, « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. » Dieu n'accepte pas les demi-mesures. Il nous veut entièrement pour lui. Et je lisais encore ce matin dans l'Exode, le Deutéronome, combien de fois l'Éternel disait, « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, mais pourquoi ?» Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois, que tu ne sois pas prisonnier de l'ennemi. Afin que tu sois heureux. C'est lorsque nous sommes entièrement au Seigneur que nous sommes véritablement heureux, n'est-ce pas vrai? N'avez-vous pas remarqué cela? C'est lorsque, dans ces moments où Jésus est tout pour nous, que nous expérimentons cette joie indicible et profonde, n'est-ce pas vrai? Et dans les passages que nous allons lire maintenant, nous voyons l'apôtre nous dire comment nous devons servir le Seigneur. Et si on devait mettre un titre pour ce message, c'est « Un cœur entier pour le Seigneur ». Voilà ce que Dieu veut. Voilà sa volonté pour toi, pour moi, un cœur entier. Un cœur entier. Et nous allons voir dans ces versets plusieurs signes de ce qu'est un cœur entier pour le Seigneur. Quels sont les signes? Le cœur est la partie centrale de notre être, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui aujourd'hui meurent de problèmes cardiaques. Beaucoup de problèmes cardiaques dans ce monde. Beaucoup de gens meurent à cause de cela. Et pour notre vie spirituelle, si nous voulons voir si nous sommes en bonne santé, il faut que nous ayons un cœur en bonne santé. Si nous avons des problèmes dans notre vie spirituelle, d'une manière générale, c'est parce que notre cœur est en mauvaise santé. C'est pourquoi il est toujours bon de vérifier si notre cœur est entier pour l'Éternel. Car c'est alors que nous vivrons véritablement, que nous serons heureux et que nous serons une bénédiction à ceux qui nous entourent, n'est-ce pas vrai? Non seulement, en somme, il y avait trois buts quand Dieu disait à Israël, Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Premièrement, pour que tu sois heureux. Deuxièmement, pour que tu sois protégé de l'ennemi. Et troisièmement, pour que tu sois un témoignage dans ce monde. Un témoignage dans ce monde. Voilà ces trois objectifs qui sont là et qui doivent nous inciter à avoir un cœur entier. Quels sont les signes donc d'un cœur entier? Je ne dis pas d'un cœur parfait. Bien souvent, dans l'Ancien Testament, il est parlé aussi souvent d'un cœur parfait. Que Dieu est près de celui qui a un cœur parfait. Mais ce mot veut dire, non pas le mot parfait dans le sens que il n'y a pas de faute ou de faiblesse dans cette personne, mais le mot parfait, quand il est utilisé, c'est toujours dans le sens d'être entier pour le Seigneur. Amen. Car la perfection ne sera pas ici-bas. La perfection, nous l'aurons là-haut, n'est-ce pas? Mais ce que nous pouvons avoir ici-bas, c'est un cœur entier. Et nous le savons quand notre cœur est entier pour l'Éternel. Tout dépend de cela. Un cœur entier, c'est le secret d'une vie chrétienne, heureuse, joyeuse, victorieuse. C'est le secret aussi d'un bon témoignage. Un cœur entier pour le Seigneur. Si nous avons cela, si nous veillons continuellement à ce que notre cœur reste ainsi, certainement Dieu sera satisfait, nous serons satisfaits et nous pourrons être des témoignages autour de nous. Romains chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 16. Que la charité soit sans hypocrisie. Oui, les expressions de l'apôtre ici, vous allez le voir, c'est comme des télégrammes. Ce sont des expressions télégraphiques, des courtes phrases, très courtes phrases, avec un message profond et incisif, j'allais dire, que Dieu voudrait nous communiquer ce matin. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous voyez tous ces télégrammes qui sont là? C'est vraiment, c'est très précis, très pressant. En pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ces quelques versets, nous allons voir 15 signes de bonne santé d'un cœur. Il y en a 15, c'est comme 15 télégrammes qui nous révèlent comment avoir, qu'est-ce qu'un cœur entier et comment rester dans ces dispositions qui glorifient le Seigneur. 15 signes qui nous révèlent si votre cœur est en bonne santé. Car la Bible nous dit que nous devons préserver notre cœur plus que toute autre chose. C'est là, c'est dans le cœur, c'est le cœur qui doit être préservé. C'est le cœur qui doit être en bonne santé. Si le cœur est en bonne santé, tout le reste sera en bonne santé, n'est-ce pas vrai? C'est le cœur. Premièrement, un premier signe de bonne santé. Un cœur entier au verset 9, est un cœur sincère. Voilà un premier signe d'un cœur entier devant le Seigneur. Quand il est dit ici que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie. Alors voilà un premier signe d'un cœur entier. Un cœur sincère. Et notre amour pour chacun d'entre nous, pour les autres, doit être un amour sincère. Et vous savez ce que c'est que la sincérité ? C'est être ouvert, ne rien cacher, être une personne qui n'a pas de visage. Le mot hypocrisie, vous le savez certainement, veut dire comédien. Un hypocrite, c'est un comédien. Pourquoi un comédien ? Parce qu'un comédien a deux vies. Il a une vie privée et une vie publique qui est différente. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a deux vies. C'est quelqu'un qui a une vie chrétienne et ensuite une vie autrement, mais ces deux vies se contredisent. Ces deux vies ne s'harmonisent pas. Alors, un amour sincère, c'est justement manifester ce fait que nous sommes entiers dans tout ce que nous faisons. Amen. Il ne doit pas y avoir deux vies dans notre vie chrétienne. On ne doit pas avoir une vie à l'église et une autre vie chrétienne dans notre foyer ou au travail. Nous ne pouvons pas divorcer ces choses. Malheureusement, cela existe, il y a des chrétiens qui ont une vie chrétienne à l'église, mais en dehors de l'église, il n'y a plus de vie chrétienne. Il y a une contradiction, il y a deux vies qui sont vécues. Et la sincérité, c'est justement cela, c'est qu'on est la même personne, que ce soit à l'église, à la maison, au travail ou dans la rue, nous sommes la même personne. Nous ne portons pas de masque. Le comédien, c'est celui qui porte des masques. Vous voyez, souvent, on voit des masques avec un gros sourire. Et puis derrière, la personne vous fait la grimace. Et ce que l'apôtre veut dire, il faut faire tomber les masques. Un chrétien est celui qui a fait tomber les masques. Il n'a plus deux vies comme dans le monde. Où devant vous, certains sont bien gentils et par derrière, ils vous font beaucoup de mal. Ça, c'est dans le monde, n'est-ce pas vrai? On n'a pas besoin de nous faire de dessins, c'est ainsi. Mais l'apôtre nous dit, maintenant que tu es au Seigneur, tu dois faire tomber les masques. Il faut la sincérité. Il faut la droiture. Il faut que nous n'ayons pas deux vies. Que notre vie chrétienne soit partout la même. Amen. C'est cela, un cœur entier, c'est un cœur sincère. Où il n'y a pas une double vie. Parce qu'on ne nous voit pas. Parce qu'on est loin des chrétiens. On se permet de faire certaines choses. Mais on oublie que Dieu nous voit. Tu n'es pas vu par les hommes, ou par les chrétiens, ou même par le pasteur. Mais Dieu te voit. On ne peut pas avoir deux vies. Un cœur sincère, c'est un cœur qui est exempt d'hypocrisie. On est la même personne, que ce soit à l'église. En dehors de l'église ou partout ailleurs. Amen. Voilà ce qui a un cœur entier et voilà ce qui glorifie Dieu. Nous devons bien sûr tous veiller à cela. C'est très important. Un deuxième signe maintenant d'un cœur entier, c'est un cœur qui, il est dit au verset 9, « Ayez le mal en horreur ». Un cœur entier, c'est un cœur qui a de la haine pour le mal. Voilà un autre signe d'un cœur entier. C'est un cœur qui a de la haine pour le mal. Et vous savez, le mot est, en horreur veut dire en dégoût, violente répulsion. Le mot horreur veut dire dégoût, violente répulsion, aversion, répugnance, antipathie. Nous devons avoir le mal en dégoût. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous ai dit qu'un cœur entier, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les demi-mesures. Quand on se donne au Seigneur, on se donne entièrement, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas une vie à l'église et une autre vie à la maison, au travail, où on n'est plus la même personne. Dieu n'accepte pas cela. Et concernant le mal, on doit avoir le mal en horreur. On doit avoir de la répugnance, voyez-vous. C'est vraiment l'expression d'un cœur entier. Je hais le mal, je l'ai en horreur. On ne doit jamais s'habituer au mal et au péché. Amen. Jamais. Le péché, le mal doit nous choquer. Nous devons être scandalisés par le mal. Si nous ne le sommes plus, c'est que nos cœurs sont devenus tièdes. C'est qu'il y a un compromis au fond de nous-mêmes. Ayez le mal en horreur. Voilà comment nous garderons un cœur en bonne santé. Et voilà comment notre cœur sera entier pour le Seigneur. Amen. Nous ne devons pas seulement haïr les conséquences du péché, mais le péché lui-même. Il y en a beaucoup qui haïssent les conséquences du mal, mais pas le mal lui-même. C'est le mal lui-même que nous devons haïr, détester. Voilà, ça c'est un signe de bonne santé. Amen. Très important. Un troisième signe maintenant, il est dit, attachez-vous fortement au bien. Un cœur entier, c'est un cœur qui aime le bien, qui s'attache au bien. Amen. Et qui s'attache fortement au bien. Haïr le mal, c'est le côté négatif. Mais il y a l'attachement de notre cœur au bien. Attachez-vous fortement au bien. Nous devons aimer ce qui est bien. Amen. Le bien, nous devons vraiment le poursuivre et l'aimer de tout notre cœur. Attachez-vous à cela. Nous devons faire corps avec le bien. Amen. Ce sont des pensées très importantes, ce qui fait que nous resterons un cœur en bonne santé et un cœur entier pour l'Éternel. Nous devons aimer le bien. Quatrièmement, il est dit, un quatrième signe, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pleins d'affection les uns pour les autres. Ici, c'est un cœur affectueux. Un cœur entier, c'est un cœur affectueux qui manifeste de la tendresse. Soyez plein d'affection les uns envers les autres. Et le mot affection qui est utilisé ici dans le texte grec, c'est le mot affection concernant la vie de famille, concernant les membres dans une même famille. L'apôtre veut nous dire en somme, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes membres de la famille de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Et en tant que frères et sœurs, nous devons nous témoigner de l'affection. Parce que nous sommes frères et sœurs, nous devons manifester un cœur entier. C'est un cœur affectueux qui manifeste son affection. Amen. Ça, c'est un point très important. Beaucoup disent, ah oui, mais moi, j'aime, c'est dans mon cœur. Si c'est dans ton cœur, ça doit se manifester. Ce n'est pas le tout de dire, c'est dans mon cœur. Il faut le dire, le manifester. Si tu dis à ta femme, je t'aime, mais tu ne le manifestes pas, est-ce que ta femme sera contente? Pas du tout. Je t'aime, tu sais, je t'aime. Mais aucune manifestation d'amour, elle ne sera pas contente. Nous devons manifester cet amour qui est dans notre cœur. Et c'est ce que l'apôtre dit ici. Par amour fraternel, soyez plein, voyez-vous, plein. Pas de demi-mesure. Il faut plein, il faut que ça déborde. C'est vraiment, ce sont des versets qui révèlent justement que la plénitude, le débordement, la surabondance, voilà ce que Dieu veut. Pas de demi-mesure. C'est quelque chose que Dieu déteste, la demi-mesure. Mais Dieu aime ce qui est plein, ce qui est rempli. Alléluia. Et nous devons être pleins d'affection l'un à l'égard de l'autre. N'ayons pas peur de manifester notre affection, mes amis, c'est très important. Pourquoi ? Parce que nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'un ou l'autre. Nous sommes tous les mêmes membres d'une même famille, les mêmes enfants d'un même père. Alléluia. Et nous sommes tous aimés de la même façon par notre Père Céleste. Alléluia. Mais par amour fraternel, ayez plein d'affection les uns pour les autres. Certains diront, « Ah, mais moi, je n'ai pas l'habitude, c'est dans mon tempérament. » Mais maintenant que tu es dans la famille du Seigneur, on manifeste son affection. Amen. Amen. La véritable, tu appartiens maintenant à une nouvelle famille. Ta famille humaine, charnelle, manifeste peut-être pas d'affection, mais maintenant tu es dans une famille céleste, la plus belle des familles. Amen. Et dans cette famille, on manifeste sa tendresse, son affection. C'est très important, c'est un bon signe. Nous devons le manifester. Un autre signe très important. On en est combien maintenant ? Cinquième. Cinquième signe. Par honneur, user de prévenance réciproque. Et les prévenances, voilà un cinquième signe d'un cœur entier. Et le mot prévenance, vous savez ce qu'il veut dire ? Petit soin, menu service. Attention délicate à l'égard de quelqu'un. Délicatesse, c'est cela. Ce sont les petits soins que vous manifestez, qui ne sont pas vus, mais qui font un si grand plaisir et qui touchent si profondément le cœur. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Toutes ces petites attentions que l'on manifeste l'un à l'égard de l'autre, ce sont des grandes choses aux yeux de Dieu. Beaucoup de chrétiens attendent de faire de grandes choses et négligent les petites choses qui sont là tous les jours à leur disposition et ne les font pas. Il n'y a pas de petites choses pour un grand Dieu. Tout est grand pour notre Dieu. Même les petites choses sont grandes quand nous le faisons pour le Seigneur qui est grand. Amen. Un cœur entier, c'est un cœur qui manifeste justement son amour dans les petites choses. Et cela, tout le monde peut le faire. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout le monde. Chacun d'entre nous. Si nous faisons cela, nous resterons en bonne santé. Nous n'aurons pas de crise cardiaque spirituelle. Nous n'aurons pas de crise cardiaque. Ce sont des petites choses. Mais beaucoup disent, « Oh, mais c'est rien du tout. C'est rien, ça. » Non, jamais. Une petite chose peut faire de grands biens. Amen. Amen. Une parole dite à propos peut faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Une attitude, un geste, une bonne action peut sauver la vie de quelqu'un. N'est-ce pas vrai? C'est très important. Comment avoir un cœur entier pour le Seigneur? Un cœur prévenant, c'est un cœur entier. Amen. User de prévenance réciproque. Il ne faut pas attendre que l'autre dise, hey, « Dis donc, tu vois pas que j'ai petite parole gentille de temps en temps, ça fera du bien. » Non, c'est vous qui ressentez la chose. Amen. Alléluia. De prévenance. Pourquoi ? Parce que vous observez, vous regardez autour de vous. Vous êtes membre de la même famille. Si on ne regarde pas son frère et sa soeur, on ne peut pas savoir quels sont ses besoins. Amen. On regarde. Quand vous avez vos enfants autour de vous, vous les regardez tous. Vous les observez, vous dites, oula, toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tout de suite, vous le voyez avec nos enfants, moi, je le vois tout de suite. Ils voient quand ça ne va pas en moi, et puis moi, je vois quand ça ne va pas en eux. Les enfants aussi, c'est champion pour ça, pour voir ce qui ne va pas aussi dans les parents. Mais usez de prévenance réciproque, mes amis. On ne doit pas attendre que l'autre fasse ce geste. Le faire soi-même, le premier, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un signe de bonne santé. Alléluia. Et ne l'oubliez pas, si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous en confiera des grandes. Gloire à Dieu. Sixième signe maintenant d'un cœur entier pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est ? Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Voyez-vous encore, ici l'expression de zèle montre que la tiédeur n'y est pas. Les demi-mesures n'y sont pas encore. Chaque mot est un mot plein de dynamite, de vie, de plénitude. Ayez du zèle et non de la paresse. Autrement dit, tout ce qu'on fait, c'est de l'ardeur à entreprendre quelque chose. Quand on fait quelque chose, on doit le faire avec zèle. Alléluia. Comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Ayez du zèle et non de la paresse. Vous voyez, là encore, tout ce que nous faisons doit être fait avec zèle. Amen. Avec zèle. Septième signe, soyez fervent d'esprit. Voyez-vous, là encore, dans le mot fervent, il y a la pensée d'un feu, quelque chose qui bouillonne. C'est de l'enthousiasme. C'est quelqu'un qui est passionné. Sentiment d'une grande intensité. Soyez fervent. Vous voyez, il y a de l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui boue en nous. Amen. Un cœur entier, c'est un cœur donc qui est enthousiaste. Alléluia. Enthousiaste. Tout ce que nous faisons, faisons-le avec joie. Soyez fervent. La joie, l'enthousiasme, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un signe de bonne santé. N'est-ce pas vrai? Si nous perdons notre joie, alors nous perdons notre bonne santé spirituelle. Et tout ce que nous faisons, faisons-le avec joie. Soyez fervent d'esprit, bouillant, enthousiaste. Mettons-y notre cœur. Quand nous louons le Seigneur, que ce soit de tout notre cœur. Quand nous prions, que ce soit tout notre cœur. Quand nous témoignons, que ce soit tout notre cœur. Amen. Quand nous prêchons, que ce soit de tout notre cœur. Qu'il n'y ait pas de demi-mesure, voyez-vous? Il n'y a pas de demi-mesure. Soyez fervent. C'est un feu qui est là. Ça boue. Ça boue, ça boue, ça boue. Et c'est l'eau bouillante qui détruit les microbes, n'est-ce pas vrai? C'est l'eau bouillante, c'est quand ça boue que ça détruit les microbes. Ça détruit le mal, le péché. Toutes ces choses, ces faiblesses même qu'on peut avoir. Quand ça boue, ça détruit tout le mal en nous. Alléluia. L'enthousiasme. Mais il ne faut pas avoir peur de manifester cet enthousiasme. Est-ce que l'enthousiasme est seulement destiné à ceux qui sont dans un terrain de football? Où on les entend crier? Est-ce que, ou à un match de rugby? Tout le monde crie là-bas, allez, 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 allez. Quel enthousiasme! Personne ne dit, ils sont malades ces gens-là. Personne. Et quand les gens dans l'église louent le Seigneur avec enthousiasme, on nous dit, ils sont malades ces gens-là. Pourquoi ils sont malades? Parce que on leur a jamais donné le témoignage, justement, de ce qu'est un cœur entier pour le Seigneur. Amen. Mais si nous commençons à manifester de l'enthousiasme, de la ferveur, alors nous resterons en bonne santé et notre témoignage portera autour de nous. Gloire au Seigneur. Huitième signe. C'est des petits télégrammes que je vous donne. On ne va pas trop en profondeur, sinon on n'y arrivera jamais. Mais quelques pensées importantes. Huitième signe, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Un autre signe donc d'un cœur entier, c'est un cœur qui sert. Un cœur de serviteur. Amen. Servez le Seigneur. Et tout ce que nous faisons doit être fait pour servir le Seigneur, pour faire sa volonté et non ma volonté. Amen. Ce n'est pas le Seigneur qui doit nous servir, mais c'est nous qui devons servir le Seigneur. Il y en a qui ont des mauvaises traductions parfois. Quand ils lisent, ils disent, Seigneur, eh bien, tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas fait cela, tu n'as pas exaucé ma prière. On a l'impression que le Seigneur, c'est l'esclave et eux, ce sont les maîtres. Non, la Bible dit bien que c'est nous qui devons servir le Seigneur. C'est nous qui sommes les esclaves volontaires d'amour du Seigneur. Et lui, il est le maître. C'est sa volonté que nous devons faire et non la nôtre. Veux-tu avoir un cœur entier et en bonne santé? Sers le Seigneur. Fais sa volonté et non la tienne. Ta volonté, c'est du poison. La volonté de l'homme, c'est du poison. Si tu fais ce que tu veux, tu seras malheureux. Tu te détruiras même. Voilà pourquoi le monde se détruit aujourd'hui. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Chaque nation fait ce qu'elle veut. Chaque individu recherche son intérêt. Voilà pourquoi l'individuel monde est empoisonné. Ta volonté est du poison. Mais la volonté de Dieu, c'est du miel. Alléluia. Ce n'est pas du poison, c'est une libération. C'est un miel qui te nourrit. C'est un pain qui te fortifie. Servez le Seigneur. Ça, c'est un signe de bonne santé. Me voici, Seigneur, pour faire non ma volonté, mais la tienne. Coûte que coûte, je veux faire ce qui te plaît. Alléluia. Et lorsque nous servons les hommes, nous devons réaliser que nous ne servons pas des hommes, mais que nous servons le Seigneur. Fais tout comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. C'est ce que l'apôtre dit, n'est-ce pas? Si nous réalisons cela, que tout ce que nous faisons, même au travail aussi, au travail, quand les chrétiens même réalisent cela, c'est important, que le travail que tu fais, tu ne le fais pas pour ton patron, premièrement, tu le fais pour le Seigneur. Quel témoignage! Quel témoignage! Quelle efficacité! Et quelle bénédiction aussi sur celui qui voit même le travail comme cela. Tout ce que vous faites, ne le faites pas comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Alléluia! Et si c'est tout comme pour le Seigneur, alors tout est beaucoup plus facile. Et le Seigneur, lui, nous récompensera. Même si les hommes ne nous récompensent pas au bon moment, Dieu, lui, nous récompensera. Amen! Il ne nous oubliera pas. Il ne paye pas toujours à la fin du mois, peut-être, le Seigneur. Mais il nous donnera toujours au bon moment ce dont nous avons besoin. Amen. Ah oui. Peut-être pas à la fin du mois, mais il ne vous abandonnera jamais. Amen. Jamais. Servez le Seigneur. Un cœur entier, c'est un cœur qui sert. Non pas qui veut être servi, un cœur malade, c'est quelqu'un qui veut être servi. Ça, c'est un cœur malade. Un cœur malade, c'est celui qui cherche à être servi, plus qu'à servir. Un cœur qui cherche à être servi, c'est un esclave. Il est là, donne-moi un peu d'amour, donne-moi un peu d'affection, donne-moi, donne-moi. On est là toujours en train de demander. Ça, c'est de l'esclavage. C'est un cœur malade. Maintenant que Christ est en toi, tu peux donner quelque chose. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Jésus a dit, donnez, et il vous sera donné. Ce que tu veux des autres, tu dois le donner d'abord, premièrement. Amen. Ce que tu attends de ta femme ou de ton mari, tu dois le donner en premier. Tu veux que ta femme soit plus gentille? Alors, sois plus gentil avec elle. Ce que tu veux que ton conjoint te donne, donne-le-lui. Ce que tu veux que ton frère ou ta sœur te donne dans l'église, donne-le en premier. Amen. Servez, non pas être servi. Ce sont des vérités très importantes. Neuvième signe de bonne santé, réjouissez-vous en espérance. Alors ici, on pourrait traduire aussi que votre espérance vous garde toujours joyeux. Voilà, autrement dit, un cœur entier, c'est un cœur plein d'espérance. Amen. Un cœur plein d'espérance. Alors on pourrait traduire que votre espérance vous garde toujours joyeux. Nous avons une espérance. Le monde n'a point d'espérance, mais tu as une espérance. Le Seigneur est avec toi. Le meilleur est à venir. Amen. Bientôt le ciel s'ouvrira. Les portes d'or de la cité céleste s'ouvriront bientôt. Et nous entrerons dans la gloire éternelle. Nous avons une espérance. Nous ne sommes pas comme ceux du monde qui n'ont point d'espérance. La nuit et les ténèbres viennent sur ce monde. Mais la gloire, la lumière, l'espérance est devant le chrétien. Alléluia. Réjouissez-vous en espérance. Et si nous repassions continuellement cette espérance qui est devant nous, nous serions plus joyeux. Bien souvent, nous perdons notre joie parce qu'on a les yeux trop fixés sur les problèmes, les difficultés de la vie, n'est-ce pas vrai? On a l'impression que voilà, c'est la vie s'arrête là. Non, mes amis. La vie, ce monde est comme un pont. C'est comme un pont, on est de passage. On ne construit jamais une maison sur un pont, vous êtes d'accord avec moi? Et la vie est comme un pont. On est de passage. Ne construis pas une maison sur le pont, ça ne va pas aller. On va tout détruire. C'est un pont. Tu es de passage. C'est un pont qui te conduit à une direction précise, dans un lieu précis, la gloire de Dieu. Alléluia. La demeure de l'agneau, la demeure de notre Père céleste. Que votre espérance vous garde toujours joyeux. Quand tu perds ta joie, regarde un peu le ciel. Regarde à ce qui t'attend là-haut. Lis les passages de la Bible qui nous parlent du ciel, de l'espérance qui est là-haut. Alléluia. Tu verras le Seigneur, non seulement le Seigneur, mais tu verras Abraham, Isaac, Jacob. Tu verras Moïse, tu verras Joseph. Amen. Tu verras Paul, tu verras Pierre. Rien qu'à penser à cela, déjà, ça te donne courage. Tous ces hommes ont été fidèles, ont persévéré dans la course. Et maintenant, ils contemplent leur Dieu. Alléluia. Que votre espérance vous garde toujours joyeux. Nous avons une espérance, nous ne sommes pas comme le monde. Il est vrai que des temps difficiles arrivent, mais pour le chrétien, il est au courant de ces choses. Il sait que ces choses doivent arriver, mais que ces choses-là ne sont pas la fin de tout. La fin de tout, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu pour le chrétien. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Que votre espérance vous garde toujours joyeux. Alléluia. Nous avons une espérance. Dixième signe d'un cœur entier, soyez patient dans l'affliction. Un cœur entier, c'est un cœur patient. Un cœur patient. Ça, c'est un cœur entier. Un cœur en bonne santé. Soyez patient dans l'affliction. Le mot patient veut dire ferme, qui persévère sans se lasser. Sans se lasser. La fermeté, soyons patients dans l'affliction. Non seulement on ne se lasse pas, mais on utilise même ces épreuves pour nous faire avancer. Alléluia. Dans le monde, les hommes sont arrêtés par leurs épreuves. Pour le chrétien, il utilise ses épreuves pour aller plus loin. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez patients dans l'affliction. Le meilleur est à venir. J'ai noté ici cette pensée concernant un mendiant qui faisait du porte-à-porte comme ça. Et voilà ce qu'il disait. Lorsqu'on me fait attendre, disant un mendiant, lorsqu'on me fait attendre à la porte, j'espère qu'on me fait un plus gros paquet. J'espère que... S'ils attendent un peu trop, c'est parce qu'ils sont en train de faire un plus gros paquet. Je trouve qu'il était bien, bien optimiste, ce mendiant. Il avait une bonne philosophie de la vie. Il était là. Ah, c'est bien long. Non, il ne se cassait pas la tête. Non, c'est peut-être qu'ils font quelque chose de bien. Alléluia. Soyez patients dans l'affliction. Ça veut dire que le meilleur est à venir. L'affliction produit la persévérance. La persévérance dans l'épreuve. Et la persévérance produit la victoire. Alléluia. Le meilleur est à venir. Si Dieu n'exauce pas ta prière comme il le faut, s'il attend, il est en train de préparer un plus gros paquet pour toi. Alléluia. Peut-être pas les choses que tu veux toi, mais les choses qu'il veut lui et qui seront meilleures pour toi. Il a décidé le meilleur pour toi. Le meilleur est à venir. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez patient dans l'affliction. Patient. Cette patience doit travailler en nous. Nous en avons besoin. Un jour, c'est un jeune homme qui se décourageait tout le temps et qui est allé trouver son pasteur et lui a dit, « Pasteur, priez pour moi parce qu'il faut que j'ai de la patience. Priez pour moi pour que Dieu me donne de la patience. » Alors le pasteur a dit, « Bon, ben, mets-toi à genoux ici, je vais prier pour toi. »« Qu'est-ce que tu veux ? De la patience ?»« Oui, de la patience, d'accord. » Alors le pasteur a commencé à prier pour lui en disant, « Seigneur, tu vois qu'il veut de la patience ?» Alors envoie-lui des tribulations. Parce que ce sont les tribulations qui produisent la patience. C'est bien écrit. Le jeune homme a dit, « Pasteur, arrêtez ! Ce n'est pas des tribulations que je demande, c'est de la patience !» Mais la parole de Dieu dit que ce sont les tribulations qui produisent la patience. Amen. Il était surpris. Romains chapitre 5, la référence. Romains chapitre 5, on peut tout de suite lire cette référence-là. Romains chapitre 5. Nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Autrement dit, la patience. C'est l'affliction qui produit la patience et la persévérance. Amen. Alors, si un jour vous dites au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de plus de patience, ne vous étonnez pas si certaines tribulations arrivent, certaines afflictions arrivent, parce que c'est dans l'affliction que vous comptez le plus sur le Seigneur. Amen. C'est cette affliction qui vous met à genoux. Et si quelque chose peut vous mettre à genoux, c'est la plus grande des bénédictions. Celui qui avance à genoux ne recule jamais. Alléluia. Celui qui avance à genoux ne tombe jamais. Celui qui avance à genoux ne tombe jamais. Il ne recule jamais. Béni soit le Seigneur si certaines épreuves nous font tomber à genoux. C'est la plus grande des bénédictions. Amen. Soyez patients dans l'affliction. Nous en avons tous besoin. Moi le premier, mes amis. Bien souvent, nous ne comprenons pas pourquoi nous passons par certaines choses, mais le Seigneur est en train de travailler. Et il est en train de faire une œuvre merveilleuse que nous ne comprenons pas toujours, mais un jour, il nous montrera pourquoi nous avons passé par telle épreuve. C'était notre salut et notre survie. Ce qui nous semble une contradiction, un non-sens maintenant, est le témoignage, un témoignage de sagesse de la part de Dieu. Et notre sécurité dans son plan à lui. Amen. Soyez patient. Ça, c'est un cœur en bonne santé. Quelqu'un qui est toujours impatient, il fait toujours des bêtises. Nous nous sommes toujours pressés et nous arrivons toujours en retard. Avez-vous remarqué, l'homme moderne, il est toujours pressé, il arrive toujours en retard. Tandis que Dieu n'est jamais pressé et il n'arrive jamais en retard. Alléluia. Jamais pressé. Il y a un proverbe allemand qui dit, je crois, « Le moulin de Dieu tourne lentement, 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 mais sûrement. » Et le travail se fait en profondeur. Amen. Dans toutes ces épreuves, Dieu veut façonner en toi l'image de Jésus. Alléluia. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Il est en train de façonner l'image du Seigneur. Laisse-le faire. Ouvre ton cœur. Dis-lui oui, Seigneur. Façonne-moi. Change-moi. Nous avons été prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Amen. Voilà pourquoi tu as tes épreuves. Sois patient. Il est en train de te façonner, te transformer à l'image du Seigneur. On en est où ? 11. Onzième signe. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer dans l'habitude de prier. Un cœur en bonne santé, c'est un cœur qui prie, qui est en communion constante avec Dieu. Amen. Alléluia. Un cœur en communion constante. On doit avoir ces moments particuliers de prière, mais on doit être continuellement en prière. Amen. Persévérer dans la prière, c'est cette constante communion avec le Seigneur. Avec lui, continuellement. Un cœur qui est comme cela est un cœur en bonne santé. Alléluia. Car c'est de lui que nous recevons et que nous devons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Persévérer dans la prière, c'est dans un domaine où nous devons être fidèles aussi. Amen. Et veiller, tout particulièrement. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui perd toute bonne santé spirituelle. C'est impossible. Mais plus nous prions, plus nous aimons le Seigneur. Plus notre cœur est bouillant pour le Seigneur, plus nous sommes entiers pour le Seigneur. Amen. Plus nous prions, plus nous avons envie de prier. Moins nous prions, moins nous avons envie de prier. Mais nous devons persévérer. Nous n'aimons pas. La prière, c'est quelque chose qui, bien souvent, qui est contraire à notre nature, n'est-ce pas vrai? Mais c'est une bonne discipline de l'esprit. Et nous en avons besoin. Persévérer dans la prière. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais celui qui prie. Amen. Je répète. Dieu n'abandonne jamais celui qui prie. Celui qui s'attend à lui, qui frappe à la porte du Seigneur. Dieu n'abandonne jamais celui qui prie. Voilà un cœur en bonne santé. 12. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Un cœur en bonne santé, c'est un cœur qui donne. Alléluia. Pourvoyez aux besoins des saints. Un cœur en bonne santé, c'est celui qui donne. Il y en a qui ont plus de joie à recevoir qu'à donner, mais la Bible nous dit que nous devons avoir plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Un cœur en bonne santé, c'est un cœur qui donne. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. L'hospitalité, c'est une grande bénédiction aussi. Ça, c'est un bon signe. C'est le cœur, c'est un signe d'un cœur qui est ouvert et qui vit pour donner, et qui se donne aux autres. Amen. Treizièmement, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Un cœur entier est un cœur qui bénit. Qui bénit son ennemi. Amen. Qui bénit son ennemi. Ça, c'est un cœur en bonne santé. Ça, c'est un cœur entier. Nous avons tous d'une manière ou d'une autre des gens qui s'opposent à nous, n'est-ce pas vrai? Que ce soit dans la famille, dans l'église, je veux dire dans l'église en général, d'autres frères ou autres, ou au travail. On ne plaît pas à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Comment faut-il réagir? Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ne dites pas du mal de quelqu'un qui dit du mal de vous. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais surmontez le mal par le bien. Amen. Ça, c'est un signe de bonne santé aussi. Bénissez ceux qui vous persécutent. Seigneur, tu les bénis. Seigneur, tu les bénis. Seigneur, tu les visites. Il n'y a rien de tel pour être vainqueur sur votre ennemi et ne pas être esclave de l'ennemi, au contraire. En être totalement libre, c'est quand nous le bénissons, nous l'aimons et nous lui pardonnons. Et s'il a fait du mal, il aura des comptes à rendre à Dieu, n'est-ce pas vrai? Mais quant à vous, quant à nous, nous devons bénir, pardonner, et pour être libérés de l'esclavage de cette personne. Combien maintenant on en est? 14. 14, un cœur, alors verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » 14e signe d'un cœur entier, c'est un cœur compatissant. Un cœur compatissant. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça aussi, c'est un signe de bonne santé. Malheureusement, certains, ils se réjouissent quand les autres pleurent. Et ils pleurent quand les autres se réjouissent. Certains chrétiens, ils se réjouissent quand les autres pleurent. Ah, mais je savais bien. C'est bien, c'est le jugement de Dieu qui vient sur lui. On se réjouit. Et puis quand l'autre est béni, c'est l'inverse. Oh, Seigneur, on ne peut pas se réjouir de la bénédiction de l'autre. Oh, non, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas à moi? Comment ça, c'est pas possible? Tu bénis quelqu'un comme ça? Et moi, qui suis bien plus supérieur à lui? Et on est incapable de se réjouir avec celui qui se réjouit. Quand quelqu'un se réjouit, on pleurniche. On rouspète. D'ailleurs, ça ne va pas durer, cette bénédiction. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas longtemps, cette histoire. Ça, c'est un cœur en mauvaise santé. C'est un cœur qui se détruit. La crise cardiaque n'est pas loin. Veux-tu être préservé d'une crise cardiaque? Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Sois compatissant. Pleure avec ceux qui pleurent. Amen. Réjouis-toi. L'autre est béni, réjouis-toi de sa bénédiction. Dis, je suis content que Dieu t'ait béni. Je suis content que Dieu exauce ta prière. Je suis content de la bénédiction de Dieu dans ta famille. Réjouis-toi. Et si quelqu'un pleure, va aussi pleurer avec. Je compatis avec toi. Je comprends. Pleure avec ceux qui pleurent. Réjouis-toi avec ceux qui réjouissent. Ça, c'est un cœur en bonne santé. Et je termine. Quinzièmement, on arrive quand même au bout. Un cœur en bonne santé, c'est un cœur humble. Un cœur humble. Il est dit ici, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est... humble, par ce qui est humble. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Donc un cœur en bonne santé, c'est un cœur humble. L'humilité nous gardera en bonne santé, mes amis. Que tout ce que Dieu fait dans notre vie soit toujours pour glorifier le Seigneur. Amen. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Par ce qui est humble. Voilà un signe de bonne santé. Attiré par ce qui est humble et non pas par les apparences orgueilleuses, par ce qui éblouit, par ce qui nourrit l'orgueil de l'homme. Ça, c'est un signe de mauvaise santé. Mais être attiré par ce qui est humble, caché, ça, c'est un signe de bonne santé. Amen. Car Jésus lui-même a dit, « Celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. » L'humilité. Un cœur en bonne santé, un cœur entier, c'est quelqu'un qui donne entièrement et totalement toute la gloire à Dieu. Amen. Vous savez que c'est dans ce domaine-là que beaucoup de chrétiens font des fautes. Et Dieu ne peut pas les utiliser réellement comme il le voudrait. Parce que quand Dieu les bénit, ils prennent la gloire pour eux-mêmes. Ils prennent la gloire pour eux-mêmes. Ils ravissent la gloire de Dieu. Ils font croire aux autres qu'ils sont quelque chose et que les autres ne sont rien du tout. C'est terrible. Dieu ne supporte pas un orgueilleux. Que le Seigneur nous garde de cela. C'est un très mauvais signe de santé spirituelle. Laissons-nous attirer par ce qui est humble. Et si Dieu veut nous élever, il nous élèvera. Mais ce n'est pas à nous à nous élever. Amen. Ce n'est pas à nous à rechercher à être élevés. C'est lui qui le fera. Mais nous ne devons jamais rechercher ces choses. Laissons-nous attirer par ce qui est humble. Alléluia. Quel beau signe de santé spirituelle. Un cœur entier, c'est un cœur humble et qui donne toute la gloire à Dieu. Amen. Je crois que c'était le motto de Watchman Nee, ce prédicateur chinois qui disait « Tout pour la gloire de Dieu ». Et je crois que c'est mon motto aussi. Et je crois que ça devrait être votre motto de cette année, de chaque jour de votre vie, jusqu'à son retour. « Tout pour la gloire de Dieu ». Rien pour moi, Seigneur, mais tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi, rien que pour toi. Ça, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Et c'est ainsi que votre cœur sera entièrement au Seigneur et qu'il pourra vous bénir, que vous serez heureux, que l'ennemi ne pourra pas faire ce qu'il veut avec vous, qu'il vous protégera, mais que vous serez aussi une bénédiction dans ce monde. Amen. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Jésus lui-même a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Et lui-même l'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. Voyez-vous, c'est un cœur entier que Dieu veut. Que ce soit là notre prière, que ce soit là notre objectif. Seigneur, tout entier à toi, pour toi. Et revoyez ces 15 signes de temps en temps, avant de faire la crise cardiaque. Revoyez ces 15 signes. Et prenez les bons médicaments qu'il faut. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un cœur entier pour l'Éternel. Voilà ce qui le glorifie. Et voilà ce qui est une bénédiction dans ce monde. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Amen.